Avec ce soir l'éditorialiste Anna Kamana. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Et bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
En attendant bien sûr la prise de parole du ministre de l'Intérieur, en direct Gérald Darmanin. Le président consulte, il recevait à l'Élysée aujourd'hui à l'heure du déjeuner sa première ministre Madame Borne, les chefs des groupes parlementaires, des membres de son gouvernement, de sa majorité. On a bien en tête que le président cherche à élargir sa majorité, il l'a dit lui-même. Est-ce qu'il peut vraiment gouverner autrement ?
Pour être honnête, je suis assez sceptique. On parle bien, dans l'hypothèse, d'Emmanuel Macron président et de la majorité relative, dans l'absolu, bien sûr qu'on pourrait, mais en l'occurrence. Bon, d'abord, Emmanuel Macron, il avait dit qu'il voulait gouverner autrement, de façon plus horizontale, déjà en 2017, puis de nouveau en 2022. Bon, à ma connaissance, ça ne s'est pas passé. Bon. Ensuite, sur le plan politique, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas faire un référendum, il le perdrait. Il ne peut pas dissoudre, il le perdrait. Donc, il reste quoi ? Éventuellement ?
Le remaniement.
Un remaniement qui n'intéresserait pas beaucoup les Français, sauf s'il y avait un vrai changement politique. Un vrai changement politique, ce serait un élargissement, c'est-à-dire l'entrée du Parti républicain en tant que tel dans la majorité et donc au gouvernement. Est-ce que c'est...
C'est la feuille de route de Madame Borne.
Est-ce que c'est probable ? Personnellement, je peux me tromper, évidemment, mais je n'y crois pas du tout. Alors, il reste sur le plan social, mais sur le plan social, si le Conseil constitutionnel, par hypothèse, valide en tout cas la méthode utilisée, peut-être pas chaque point, mais la méthode utilisée, la procédure choisie. Et dans ce cas-là, si valide, bah, et ça sera promulgué, et les syndicats qui ont dit qu'ils ne voulaient pas renégocier autrement... ce qui concerne les retraites apparaîtra comme bloqué. Il restera, ce qui d'ailleurs est un énorme champ, tout ce qui touche autour du travail. Là, il y a beaucoup de choses à négocier, à condition qu'ils veuillent bien. À condition qu'ils veuillent bien le faire sans qu'il y ait pause.
Anna.
Et alors là, je ne sais pas si vous avez entendu Édouard Philippe au Parc Floral pour son,
et bien
pour son
sûr.
Congrès. Voilà, le premier congrès de son parti Horizon. Il a eu une phrase que quand vous la regardez à l'aune de la situation politique de blocage actuelle, elle est quand même assez perfide. Même si nous avons tendance à l'oublier, a dit l'ancien Premier ministre, la Ve République est un régime parlementaire et sans majorité large, il est impossible d'agir. Fin de citation. C'est-à-dire que voilà à quoi condamne Édouard Philippe, le gouvernement en place et Emmanuel Macron. Et à la vérité, aujourd'hui, le seul horizon du gouvernement plus largement toute la, enfin, je veux dire, tout l'exécutif est tourné vers le sein Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement suspendus à sa décision, mais ils espèrent avoir dans cette décision, au fond, une façon de se sortir de ce moment de latence qui est pour tous les membres de l'exécutif parfaitement insupportable. Alors, quand on a juste sur la façon de gouverner, quand on a entendu Emmanuel Macron, comme vous et moi, mercredi, on a entendu qu'il a dit il y a trop de lois, il faut faire autre chose que la loi, aussi autre chose que la loi. Mais autre chose que la loi, alors on a pensé au décret, mais en fait maintenant on nous explique que ça peut être aussi ce qu'on appelle le droit mou, hein, c'est-à-dire les circulaires, ça peut être aussi le droit souple, c'est-à-dire s'appuyer sur les collectivités territoriales pour faire avancer au fond des éléments concrets dans la vie quotidienne des Français. Mais là aussi, on revient à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que dans le même temps, il veut, Emmanuel Macron, écouter plus. Mais on va arriver, si vous voulez, si on s'appuie sur le droit mou et le droit souple et qu'on fait beaucoup moins de lois, on va se retrouver dans une démocratie parlementaire sans le Parlement. Non mais c'est tout ça, au fond, non mais ça montre la ligne de crête dans laquelle se trouve le président de la République à l'instant. Et on n'a même pas parlé d'Elisabeth Borne, mais je vous laisse la parole, cher Alain.
Oui, on n'a pas parlé de la Première ministre encore.
Mais je pense que
pour vous l'avez déjà évincé.
Je pense que pour qu'il y ait un changement politique, il faut qu'il y ait une alliance avec le Parti républicain. Là, ce serait un changement politique. Et qu'en revanche, la personne qui est Premier ministre, en tant que telle, ça n'est pas un symbole politique.
Est-ce que Mme Borne est la mieux placée pour mener cette feuille de route, c'est-à-dire élargir la majorité et trouver un accord avec les Républicains ? Visiblement, non, puisqu'elle n'y est pas arrivée.
Je pense qu'elle va continuer à essayer. Je ne pense pas qu'elle puisse y parvenir.
Essayer pendant des années.
Alors, on pourrait imaginer de faire entrer dans le gouvernement pour changer les choses toute une série de personnalités, soit venant de la gauche, je dis n'importe quoi, mais enfin, ce sont des gens qui ont de l'envergure, comme Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, ceux qui ne sont pas NUPES, ou à droite, on pourrait dire, pourquoi pas, Jean-Pierre Raffarin ou Éric Woerth, tous les gens comme ça. Mais je pense que ça ne serait pas du tout un choc politique. Si on veut un choc politique, il faut qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une alliance avec le Parti républicain, et je crois qu'il n'y aura pas cette alliance. Et on peut changer de Premier ministre dans ces cas-là, mais si on change de Premier ministre sans élargir la base du gouvernement, dans la réalité des choses, ça ne changera rien.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression d'une ambiance de fin de règne, alors qu'on n'a même pas fini la première année du second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est quand même, c'est même inquiétant,
oui,
cette ambiance fin de règne.
Mais on est dans une ambiance de fin de règne avec une espèce de bouc émissarisation de la Première ministre. Hein, aujourd'hui,
c'est Emmanuel Macron qui est quand même dans les cortèges.
Bien sûr, non, mais je vous parle à l'intérieur du gouvernement. À l'intérieur du gouvernement, insulté. Tout le monde dit que tout est de la faute d'Elisabeth Borne. Hein, si
c'est
vous voulez.
Bouc émissaire.
C'est ça. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'il le croit, mais c'est ce qu'il vient de nous dire. Ça veut dire que, l'Élysée a lâché les chiens quand même contre Elisabeth Borne. Et alors,
moi, je ne suis pas spécialiste de chasse à la cour, mais...
Pourtant, c'est très intéressant.
Non, alors, l'idée de dire on a lâché les chiens contre Elisabeth Borne et tous les ministres.
Non, parce qu'il commence.
Et chaque ministre se transforme en chien courant.
Il commence à dire beaucoup.
Franchement, ça ne correspond pas à ce que je sais, en tout cas.
C'est vrai, parce que là Elisabeth Borne, par exemple, regardez l'interview qu'elle a donnée hier soir à l'AFP, où elle a dit désormais, à part pour les textes budgétaires, moi, le 49-3, c'est fini.
Oui.
Et bien, ça, je vais vous dire que dans la majorité, dans le gouvernement, tout le monde a trouvé que c'était avoir le 49-3. 49-3 honteux, c'était montré qu'elle n'assumait pas d'avoir dégainé le 49-3 et c'était en plus priver le gouvernement de marge de manœuvre. Cette interview a été vraiment
cette fois-ci,
au bazooka. Là, vous êtes d'accord avec moi.
Cette fois-ci, je suis totalement d'accord.
Ah bah écoutez, vous voyez, vous avez commencé par dire non et finalement vous dites oui.
Oui, parce que c'est pas le même sujet.
C'est aussi le même sujet, parce que ça montre qu'Elisabeth Borne est attaquée beaucoup.
Non. Mais non, vous m'avez dit elle est attaquée par tout le monde. Je vous réponds non.
Elle est considérée comme très malhabile.
Elle a commis hier une énorme erreur. Elle nous a expliqué. Mais écoutez, vous allez voir. Bon, c'est en plus.
Mais vous ne m'avez pas écouté parce que je l'ai dit, que c'était
une nouvelle erreur.
Elle a commis une nouvelle erreur dans la mesure où pendant un mois, elle nous a expliqué que le 49-3, etc. Bon, et maintenant, brusquement, on dit le 49-3, c'est épouvantable. Bon, alors, est-ce qu'on l'utilise en disant, voyez, c'est la solution, et puis c'est épouvantable, c'est totalement contradictoire. Donc, dans ces conditions-là, évidemment, ça l'affaiblit. Mais je répète, ce qui serait un changement politique serait une alliance.
Alors,
ça ne serait pas simplement un changement de Premier ministre.
En attendant cette alliance, ce changement de Premier ministre potentiel, éventuel, il y a une journée de mobilisation avec des services de sécurité. C'est Gérald Darmanin qui va nous en parler dans un instant. Mais cette mobilisation demain, est-ce que ça peut être un élément clé dans la réflexion du président de la République aussi?
Alors ça, c'est la façon dont les choses se passent demain, c'est absolument essentiel. Bon, de deux façons. D'une part, est-ce que la violence sera contenue? Est-ce qu'il n'y aura pas de drame? Bon, les drames, on n'est pas passé loin ce week-end et on ne peut pas l'exclure. Alors évidemment, personne ne souhaite...
Deux manifestants dans le coma. Hein,
c'est ça. Personne ne souhaite que ça se passe encore plus mal demain. Je pense que tout sera fait pour que ça ne se passe pas plus mal, mais il n'empêche qu'on ne peut jamais écarter l'hypothèse. Bon, pour le reste, il y aura une autre leçon demain qui est quelle sera la participation dans les manifestations, importante, pas importante. Bon, de toute façon, elle ne sera pas négligeable, de toute façon. Et d'autre part, est-ce que les grèves vont diminuer de nouveau alors qu'elles n'étaient pas très élevées? Est-ce qu'elles vont diminuer? Autrement dit, est-ce que quand cette journée sera passée, le gouvernement pourra dire non pas ouf, mais...
On a fait le plus dur, on a passé le plus dur.
On a passé le plus dur, voilà. Et ça, je pense que c'est l'enjeu de demain.
Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui se joue dans la perspective de demain, c'est la peur. La peur, elle est au sein du gouvernement, évidemment, pour les raisons que vous évoquez, mais elle est aussi du côté de Laurent Berger et des syndicats. C'est-à-dire que là, ils ont le sentiment que le risque de se faire déborder de se faire déborder par ce que Laurent Berger désormais appelle les crétins est de plus en plus grand.
Ça, c'est bien choisi, je trouve.
Bah voilà, mais c'est un mot, et Laurent Berger n'a pas que des mauvais mots. Hein. Celui-là est très juste.
De plus en plus
juste,
de jeunes également dans les cortèges.
Bien sûr, hein. Mais donc lui, il dit crétin et ça l'inquiète vraiment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a, disons qu'autant il a commencé par répondre très vertement à la main tendue très maladroitement par Emmanuel Macron mercredi, autant là on sent que des deux côtés, pour la même raison, ces deux hommes-là vont faire marche l'un vers l'autre.